Bonsoir à tous, c'est donc le dernier cours d'Ancien Testament du premier semestre, cours de niveau 3. Et nous avons parcouru les livres sapientiaux de la Bible durant ce semestre. Et nous allons continuer et terminer avec la sagesse de Salomon, car tel est son titre dans la Bible des Septante. Un livre, je le rappelle, qui est écrit directement en grec, un livre qui ne figure pas dans le canon de la Massorah, mais bien sûr qui figure dans le livre de la Septante, dans la Bible des Septante, et qui est rangé parmi les écrits qu'on appelle Anagignoskomena. Alors, quel est l'auteur de ce livre? Première question qu'on peut se poser. Eh bien, ce livre est attribué au roi Salomon. Parce qu'en effet, on y voit Salomon s'adresser à d'autres rois, à d'autres souverains, à partir du chapitre 6, mais bien évidemment, cela ne signifie pas qu'il soit l'auteur des 19 chapitres qui composent ce livre appelé « Sagesse de Salomon ». Il s'agit ici, en fait, d'une fiction littéraire. Ce livre est attribué au roi Salomon, mais c'est l'œuvre d'un juif pieux, d'un juif confessant. La foi au Dieu des Pères, comme il est dit en 9, chapitre 9, donc verset 1, d'un juif qui affirme appartenir au peuple saint, à la race irréprochable, comme il est mentionné au chapitre 10, verset 15. Bon. Donc, l'auteur est anonyme. Et nous possédons plusieurs indices qui nous font penser que c'est un juif de la diaspora. Plus précisément, que c'est un juif qui vit à Alexandrie, à cheval, si j'ose dire, entre le 2e et le 1er siècle avant Jésus-Christ. Alexandrie, je rappelle que c'est cette grande capitale intellectuelle de l'Antiquité hellénistique, Alexandrie qui comporte une très importante communauté juive, puisque si l'on en croit Philon d'Alexandrie, le grand philosophe Philon d'Alexandrie est le chef de cette communauté juive pendant un temps, au 1er siècle, donc après Jésus-Christ, eh bien, Philon donne le chiffre d'un million d'Israélites habitant l'Égypte de ce temps. Mais, bon, voilà, c'est dit, si j'ose dire. Mais ce n'est pas sans raison que c'est écrit, néanmoins, que cet écrit soit attribué à Salomon, quand on connaît les rapports intimes qu'entretient le roi Salomon avec la sagesse et avec sa quête dans la tradition biblique, et évidemment, en particulier les livres sapientiaux en sont le témoignage. La langue du texte, c'est le grec, et ce grec est d'une très bonne facture, et les citations bibliques qui sont faites dans le corps du texte sont toutes empruntées à la Septante. On remarque aussi, en faisant une étude attentive, que il y a des points de contact avec la sagesse grecque, Mais on remarque tout de suite également que il n'y a pas du tout de syncrétisme dans cette œuvre. Parce que l'auteur, anonyme encore une fois, eh bien, il est profondément juif et il demeure attaché à la tradition d'Israël. Et on verra quels sont les buts qu'il poursuit en rédigeant cette sagesse de Salomon. Il y a des exégètes qui ont parlé de la parenté entre la pensée de Philon et celle de l'auteur anonyme de la Sagesse de Salomon, mais en fait, il n'y a rien qui l'atteste. Bon, bien sûr, les deux ont vu le jour dans le même milieu intellectuel. Mais c'est Saint Jérôme ou son entourage qui attribuait la Sagesse de Salomon à Philon. C'était une erreur, bien sûr, parce que déjà, chronologiquement, c'est pas possible. Compte tenu des dates de naissance de l'un et de l'autre. Et en plus, quand on compare la doctrine de Philon avec celle de l'auteur de la Sagesse de Salomon, cette hypothèse est complètement invalidée. Donc jusqu'ici, en ce qui concerne l'auteur de ce livre, eh bien, l'anonymat est préservé, et si j'ose dire, il n'est pas prêt d'être levé. En tout cas, dans l'état actuel de la recherche biblique. Maintenant, passons à la datation du livre. On date le livre dans une période, somme toute, assez large, hein, puisque on l'estime entre 150 et 50 avant Jésus-Christ. Donc, jusqu'à présent, on n'a pas affiné les choses, mais voilà la fourchette dans laquelle on date ce livre. Et quel est le but qui est poursuivi par l'auteur de la Sagesse de Salomon ? Il y a plusieurs choses à considérer. D'abord, il veut aider ses corélégionnaires de la communauté juive d'Alexandrie à persévérer dans la foi des pères. Et il y a une bonne raison pour cela, c'est-à-dire que Alexandrie, c'est un très grand centre intellectuel. Il y a, bien sûr, vous le savez, hein, le prestige de grandes écoles philosophiques. Il y a la prégnance des religions à mystère. Et il y a la présence également d'un syncrétisme hellénistique. Ça, c'est très caractéristique de l'époque. Et ça représente effectivement une menace réelle pour cette communauté. Et puis ensuite de ça, l'auteur, il cherche à soutenir sa communauté dans les épreuves, parce que, bon, l'histoire de la communauté juive d'Alexandrie, ce n'est pas l'histoire d'un long fleuve tranquille. Et les relations entre la dynastie régnante, celle des Ptolémées, et cette communauté ont souvent connu des épreuves avec les Ptolémées, mais aussi avec le milieu païen environnant. Bon, voilà donc deux éléments qui justifient ce texte. Dans ce texte, d'ailleurs, on remarque des expressions apologétiques également, c'est pas uniquement centré sur la communauté juive, et il n'y a rien d'étonnant à cela, c'est-à-dire que le judaïsme alexandrin a une perspective universaliste, il est ouvert sur l'universalité, contrairement à ce que sera plus tard son frère, le judaïsme rabbinique. Et je ne sais plus quel auteur, je ne me souviens plus de son nom, mais avait dit « De ces deux judaïsmes, le judaïsme rabbinique a tué son frère, le judaïsme alexandrin. » Maintenant, voyons quelle est la structure de ce livre, son organisation. Pas toujours facile à repérer, mais quand même, dans les grandes lignes, c'est possible. On peut... Il y a des auteurs qui divisent le texte en deux grandes parties, d'autres en trois parties, et je pense qu'il est plus cohérent de faire appel à trois parties. Alors d'abord, du chapitre 1 au chapitre 5, ensuite du chapitre 6 au chapitre 9, et ensuite du chapitre 10 au chapitre 19. Le premier chapitre nous parle des relations entre la sagesse et la destinée de l'homme. Le deuxième chapitre, dans des paroles attribuées donc à Salomon, concerne l'origine de la sagesse, la quête de la sagesse et le moyen de la trouver. La troisième partie, donc les chapitres 10 à 19, c'est une confirmation de ce qui a été dit précédemment au travers d'une relecture de l'histoire d'Israël, une relecture midrashique de l'histoire d'Israël. C'est l'œuvre de la sagesse dans l'histoire du peuple élu. Alors, la première partie, elle est centrée sur la sagesse qui consiste à chercher Dieu et le destin des impies. C'est toujours mis en regard. La deuxième partie, sur ce qu'est la sagesse selon les paroles attribuées à Salomon. Et la troisième partie, l'œuvre de la sagesse dans l'histoire d'Israël. Bon. Le livre reprend implicitement les interrogations des Juifs d'Alexandrie sur la sagesse païenne, sur la valeur de la sagesse païenne, par rapport à celle d'Israël. Et sa réponse ne fait aucun doute, bien sûr. La sagesse d'Israël vient de Dieu, et de ce fait, on n'a pas besoin de se référer à la sagesse environnante, celle des peuples païens. Et l'histoire du peuple hébreu, nous est-il dit, l'atteste. Parce qu'il faut savoir que l'acquisition de la sagesse, puisque c'est bien ça l'objectif, l'acquisition de la sagesse, eh bien, ça n'est pas le fruit du seul effort de l'esprit humain, mais l'acquisition de la sagesse, ça s'assimile d'abord à une vertu que l'on ne peut espérer acquérir que dans la prière, c'est-à-dire dans l'union à Dieu. Ça, c'est très important à mettre en lumière. Parce que cette sagesse est avant tout un don de Dieu. Je cite au chapitre 7, 25-26, « Elle est en effet une effluve de la puissance de Dieu, une émanation toute pure de la gloire du Tout-Puissant. Aussi, rien de souillé ne s'introduit en elle. » car elle est un reflet de la lumière éternelle, un miroir sans tache de l'activité de Dieu, une image de sa bonté. Reflet de la lumière éternelle. Miroir sans tache de l'activité de Dieu, image de sa bonté. Trois expressions extrêmement importantes. Alors, on en vient, on rentre un peu plus dans le détail, et on va considérer la première partie, soit les chapitres 1 à 5, en nous aidant de citations du texte. Qu'est-ce qu'il nous est dit ? Il nous est dit que d'abord, l'homme, en premier lieu, il doit chercher à se séparer du péché, à fuir le péché. Aimez, je cite, aimez la justice, vous qui jugez la terre. Référence aux différents souverains. Ayez sur le Seigneur des pensées droites et cherchez-le en simplicité de cœur, parce qu'il se laisse trouver par ceux qui ne le tentent pas. Il se révèle à ceux qui ne lui refusent pas leur foi. Donc chapitre 1, les deux premiers versets. Alors, on peut dire, je pense que c'est vraiment ces admirables paroles, ces admirables paroles, qui traversent les siècles, eh bien, elles nous rappellent que la justice dont on parle ici, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que cette justice ? Eh bien, c'est l'adéquation entre la volonté de Dieu et la nôtre lorsque nous mettons la nôtre dans la sienne, à la suite de la sienne. Et ce texte nous dit que c'est à cette condition que s'accomplit la justice de Dieu. Et il y a, bien sûr, pour valider cette démarche, cela suppose la simplicité du cœur, comme le rappelle ce verset. Cherchez-la en simplicité du cœur. Qu'est-ce que c'est que la simplicité du cœur ? Sinon le cœur qui, ayant combattu tout ce qui fait obstacle à Dieu en lui, s'est rendu ou se rend totalement disponible et confiant en Dieu, à son dessein envers lui et à ses commandements salutaires. Donc c'est le cœur qui cherche Dieu et qui aspire à sa rencontre. Parce que bien sûr, on cherche pour rencontrer. Bon, donc la quête de la sagesse s'assimile aussi à une rencontre avec Dieu. Et c'est pour ça que le cœur qui aspire à la rencontre, le cœur qui cherche Dieu et qui aspire à sa rencontre, eh bien, il doit être dans un état de simplicité, de confiance, donc de foi. Pistis, c'est la confiance et c'est la foi, c'est la même réalité. Dieu se révèle, Dieu parle, et la sagesse omnisciente de Dieu, eh bien, elle guide ce cœur en toutes circonstances. Et il est dit, l'homme qui cherche Dieu et fuit le péché, eh bien, il veille sur la porte de ses lèvres et n'attire pas sur lui la ruine par l'œuvre de ses mains. C'est dit au verset 12 du premier chapitre. Car le verset 13 ajoute, les égarements de la vie sont œuvre de mort. Je cite. Or, Dieu n'a pas fait la mort. Ça, c'est une idée importante aussi de ce livre. Dieu n'a pas fait la mort, Il ne prend pas plaisir à la perte des vivants. C'est au verset 13. Et donc, ça va nous conduire au deuxième chapitre qui va nous donner une description très réaliste de la vie selon les impies. Là, on avait vu celui qui cherche Dieu, donc il le cherche dans la prière. Il quête ce qu'il n'a pas, donc la sagesse qui est un don de Dieu, qui lui est donné par grâce, mais qui, évidemment, suppose aussi une synergie entre la volonté de Dieu et la volonté humaine. Le deuxième chapitre, lui en opposition, nous donne une description très réaliste de la vie selon les impies. Comme quoi, vraiment, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme vous allez le voir. Voici ce qu'il est dit au verset 1a du deuxième chapitre. « Car ils disent entre eux dans leurs faux calculs. » Ça introduit, je prends le texte, « Car ils disent entre eux dans leurs faux calculs, courte et triste est notre vie. » Bon. Donc en apparence c'est une désespérance, mais en fait c'est une désespérance qui va plonger chez les impies dans le non-sens et dans tous les débordements possibles et inimaginables. Il est dit après, donc courte et triste est notre vie, il n'y a pas de remède lors de la fin de l'homme et on ne connaît personne qui soit revenu de l'Hadès. Donc du séjour des morts. Et les justificatifs se déroulent les uns après les autres. De sorte que sont passées en revue les principales pensées des impies. Le non-sens de la vie. Verset 2. Nous sommes nés du hasard, après quoi nous serons comme si nous n'avions pas existé. Conséquence, donc, venez donc et jouissons des biens présents, usons des créatures avec l'ardeur de la jeunesse, c'est au verset 6, et ça continue, enivrons-nous de vin, de prix et de parfum, ne laissons point passer la fleur du printemps, courons-nous de boutons de rose avant qu'ils ne fanent, etc., etc. Ensuite, opprimons le juste qui est pauvre, au verset 10, tendons des pièges au juste, puisqu'il nous gêne. Eh bien oui, la présence du juste parmi les impies, eh bien, elle se fait accusatrice. La présence même du juste se fait accusatrice, avant même que le juste ait prononcé la moindre parole. Tendons des pièges aux justes, puisqu'ils nous gênent et qu'ils s'opposent à notre conduite, nous reprochent nos fautes contre la loi et nous accusent de fautes contre notre éducation. Oui, voilà cette présence accusatrice. Sa vue même nous est à charge, car son genre de vie ne ressemble pas aux autres, et ses sentiers sont tous différents. C'est au verset 15. Condamnons-le à une mort honteuse, puisque d'après ses dires, il sera visité. C'est au verset 20. Alors vraiment, cette description très réaliste, elle traverse tous les siècles, parce que elle est bien une description qui est commune aux impies de tous les siècles. Et on peut l'appliquer à notre époque de la post-modernité hédoniste et dire que ça y correspond point par point. Et le texte continue, alors que, je cite, « Oui, Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité, il en a fait une image de sa propre nature ». Ça aussi, ce verset est très important. Et voilà bien le problème, justement, entre le comportement des impies et la nature de l'homme à sa création. Le problème, c'est qu'avec le péché, avec la déchéance de cette nature, eh bien, l'homme préfère la nourriture des porcs à celle des rois. Et il est dit au verset 24b, « C'est par envie du diable que la mort est entrée dans le monde. Ils en font l'expérience, ceux qui lui appartiennent. » Ils en font l'expérience, ceux qui lui appartiennent. Ce qui est donné au chapitre 2, donc, va se renforcer au chapitre 3, puisque là, on va parler du sort des justes et des injustes, mais en comparant le sort des justes et des injustes. Donc on peut citer, en mettant en regard le sort des justes et des injustes, on peut citer quelques versets. « Les âmes des justes sont dans la main de Dieu, et nul tourment ne les atteindra. » Chapitre 3, verset 1. Mais les impies auront un châtiment conforme à leurs pensées, eux qui ont négligé le juste et se sont écartés du Seigneur. 3, verset 10. Leur espérance est pleine d'immortalité. On parle d'immortalité dans cette sagesse de Salomon, Athanasia, qui désigne ici l'immortalité de l'âme d'ailleurs. Leur espérance est pleine d'immortalité par une légère correction, c'est-à-dire qui correspond à un mouvement de purification, ils recevront de grands bienfaits. Dieu, en effet, les a mis à l'épreuve et il les a trouvés dignes de lui. Donc 3, les versets 4b à 5. Alors à l'inverse, les impies, eux, vaine est leur espérance, sans utilité leur fatigue, sans profit leurs œuvres, leurs femmes sont insensées, perverses leurs enfants, maudites leur postérité. 3, verset 11b, 12. Tout cela, bien sûr, je ne suis pas le texte dans son ensemble, hein, donc je vous invite vivement à en faire une lecture continue, parce que ce texte de la sagesse de Salomon est très précieux pour nous, pour notre vie spirituelle, particulièrement dans les chapitres 1 à 9. Encore une autre comparaison qui est hautement significative, celle de la stérilité. Vous savez qu'en Israël, la stérilité, c'est quasiment assimilé à un châtiment, à un déshonneur, parce que la perpétuation du nom, eh bien, est interrompue. Alors, pourtant, l'auteur de la sagesse de Salomon nous dit que la stérilité est meilleure, vous vous rendez compte, est meilleure qu'une postérité impie. Je cite, « Même si leur vie se prolonge, ils seront comptés pour rien, et à la fin, leur vieillesse sera sans honneur. S'ils meurent tôt, ils n'auront pas d'espérance, ni de consolation au jour de la décision, car la fin d'une race injuste est cruelle. » 3, versets 17 à 19. Le chapitre 4, lui, il poursuit sur le même thème, mais avec un angle un peu différent. Et notamment évoqué à partir du verset 7, donc la mort prématurée du juste. La mort prématurée du juste. Et il est dit, le juste même s'il meurt avant l'âge, trouve le repos, c'est au verset 7, et comme il vivait parmi les pécheurs, il a été transféré, il a été enlevé. Alors là, certains commentateurs disent que il y a implicitement une référence au livre d'Enoch. Donc, comme il vivait parmi les pécheurs, il a été transféré, il a été enlevé, de peur que la malice n'altère son jugement, ou que la fourberie ne séduise son âme. C'est les versets 10b et 11. Et il ajoute, c'est une pensée tout à fait forte, que la mort du juste, eh bien, elle est comme un cri à la face des impies. Je cite, « Le juste qui meurt condamne les impies qui vivent, et la jeunesse vite consommée, la longue vieillesse de l'injuste. » La jeunesse vite consommée, la longue vieillesse de l'injuste. C'est au verset 16. Ce qui nous amène donc à la question de la rétribution qui est évoquée au chapitre 5. Question de la rétribution que nous trouvons dans d'autres livres bibliques, bien sûr. Question de la rétribution donc qui concerne la destinée des justes et le châtiment des impies. Je cite, « Et quand s'établira le compte de leurs péchés, ils viendront pleins d'effroi, et leurs forfaits les accuseront en face. » Verset 20. 4, 20. « Alors, le juste se tiendra debout plein d'assurance en présence de ceux qui l'opprimèrent, et qui, pour ses labeurs, n'avaient que mépris. » Chapitre 5, verset 1. Et toujours sur le thème de la rétribution, qui est aussi le thème du jugement, hein, puisque la rétribution suppose le jugement, « Nous nous sommes rassasiés, » c'est la sagesse de Salomon qui parle, « Nous nous sommes rassasiés dans les sentiers de l'iniquité et de la perdition. » Plus exactement, ce sont les impies qui parlent. Verset 7a, « Et la voix du Seigneur, nous ne l'avons pas connue. » 7c, « À quoi nous a servi l'orgueil? Que nous a valu richesse et jactance? » Tout cela a passé comme une ombre, comme une nouvelle fugitive. Tel un navire qui parcourt l'onde agitée, sans qu'on puisse découvrir la trace de son passage, ni le sillage de sa carène dans les flots. Et il y a d'autres comparaisons qui sont faites pour illustrer propos. Donc ce sont les versets 7 à 10 que j'ai cités, mais les suivants, les versets 11 à 13, contiennent aussi ce type de comparaison. Alors au contraire de ces impies, eh bien les justes sont dans une situation bien différente. Les justes, il est dit, hein, les justes vivent à jamais, c'est-à-dire ils vivent dans l'intimité de Dieu, leur récompense est auprès du Seigneur et le Très-Haut a souci d'eux. Aussi recevront-ils, l'image est belle, aussi recevront-ils la couronne royale magnifique et le diadème de beauté de la main même du Seigneur. C'est les versets 15 à 16a. Voilà, la deuxième partie, donc, les chapitres 6 à 9, dans la deuxième partie, sont évoquées les questions de l'origine de la sagesse, de la quête de la sagesse, mais tout ceci est fait à travers des paroles attribuées à Salomon. parce que Salomon est, si j'ose dire, en situation de s'adresser à d'autres rois. Donc, il va illustrer son propos en s'adressant à d'autres souverains. Ceux qui dominent sur les peuples et qui, nous est-il dit, doivent être conscients que leur pouvoir, ils ne le tiennent pas d'eux-mêmes, mais de Dieu. Ça, c'est un thème qui est récurrent dans l'Ancien Testament, mais aussi dans les épîtres de Saint Paul. Et de ce fait, ils sont d'autant plus liés qu'ils sont au-dessus des autres. Ils ont la charge de gouverner et de diriger les autres. Donc, ils doivent être d'autant plus conscients que leur pouvoir vient de Dieu. Et il est dit au chapitre 6, le verset 3c, « C'est lui qui examinera vos œuvres et scrutera vos desseins. » Si donc, étant serviteur de son royaume, vous n'avez pas jugé droitement ni observé la loi, ni suivi la volonté de Dieu, il fondera sur vous d'une manière terrifiante et rapide. » Chapitre 6, versets 4 à 5. Il y a pas mal de rois et de dirigeants de ce monde qui feraient bien de s'en souvenir. « Car, dit Salomon, la sagesse se laisse trouver. » Mais pas n'importe comment, elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Verset 12b. Et il ajoute, quand le fait même de chercher la sagesse, c'est le meilleur moyen d'exercer la direction des peuples, la souveraineté sur les peuples. Au verset 15a, il est dit « Méditer sur elle est en effet la perfection de l'intelligence. » Car au commencement, et je cite toujours là, hein, « Car son commencement très vrai, c'est le désir de l'instruction, c'est-à-dire c'est le désir de l'instruction selon l'enseignement divin. C'est pas dans les autres matières de l'instruction qu'il y fait référence ici. Le souci de l'instruction, c'est l'amour. L'amour, c'est l'observation de ses lois. L'attention aux lois, c'est la garantie de l'incorruptibilité. Et l'incorruptibilité fait qu'on est près de Dieu. Ainsi, le désir de la sagesse conduit à la royauté. Et Salomon ajoute, enfin, est censé ajouter, « Si donc trône et sceptre vous plaisent, souverain des peuples, honorez la sagesse afin de régner à jamais. » Là, c'est les versets donc du chapitre 6, les versets 17 à 21. Et l'amour, c'est aussi, ou plutôt ça implique l'obéissance. Et de ce fait, les lois de la sagesse, elles s'identifient aux obligations qui sont contenues dans la révélation, aux commandements divins. Alors, dans cette section du livre, Salomon, le roi, déclare sa profonde estime pour la sagesse. Parce que il la cherchait, on avait vu aussi dans les proverbes, hein, ça. Hein. Il l'a cherchée avec persévérance. Il l'a invoquée. Il l'a tenue au-dessus de tout. Comme le dit le chapitre 7. Je ne lui ai pas égalé la pierre la plus précieuse, car tout l'or au regard d'elle n'est que peu de sable. Verset 9a. Et bien, de ce fait, parce qu'après avoir dit cela, De ce fait, quand on cherche avec persévérance la sagesse, quand on la tient en très haute estime, quand on la place au-dessus de toute priorité, eh bien, nous dit le texte, il convient de la partager et non pas de la cacher. Je ne cacherai pas sa richesse, car elle est pour les hommes un trésor inépuisable. Ceux qui l'acquièrent s'attirent. Qu'est-ce qui s'attire ? L'amitié de Dieu, recommandée par les dons qui viennent de l'instruction. Ce sont les versets 13b et 14 qui affirment cela. Je rappelle que l'instruction dont on parle ici, c'est l'enseignement de Dieu, c'est l'enseignement de la révélation qui doit guider l'homme dans sa vie tout entière. Et le chapitre 7, justement, contient un éloge de la sagesse comme reflet de la lumière éternelle. Comme rayonnement de sa gloire, rayonnement qui éclaire son peuple, bien sûr, comme un miroir sans tache de l'activité de Dieu, comme une image de sa bonté. Bien qu'est, je cite, bien qu'étant seule, elle peut tout, demeurant en elle-même, elle renouvelle l'univers et d'âge en âge, passant en des âmes saintes, elle en fait des amis de Dieu et des prophètes, car Dieu n'aime que celui qui habite avec la sagesse. Chapitre 7, les versets 27 à 28. Alors au chapitre suivant, bon ben vous lirez, je ne vais pas vous lire, parce qu'il y a un texte un peu long que je vais lire tout à l'heure, donc vous lirez complètement le texte de l'éloge à la sagesse, donc c'est dans le chapitre 7, des versets 22 à 30. Et le verset que je viens de lire, c'est le verset 26. Car elle est un reflet de la lumière éternelle, un miroir sans tache de l'activité de Dieu, une image de sa bonté. Et au chapitre 8, donc, la sagesse, elle est comme une femme aimée et désirée. Elle est comme... Salomon désire l'épouser, finalement. Et il dit, c'est elle que j'ai chérie et recherchée dès ma jeunesse. Autre affirmation qu'on retrouve dans le livre des Proverbes. J'ai cherché à la prendre pour épouse, et je suis devenu amoureux de sa beauté. Le verset 1. Donc la sagesse est vue ici dans tout l'éclat de sa beauté, de sa noblesse divine. Et elle est en fait la source, d'après notre texte, la source de tout ce que l'homme peut chercher de plus élevé dans sa vie. Pourquoi ? Parce que, nous dit le verset 7b, eh bien, elle enseigne la tempérance, la prudence, la justice, la force, ce qu'il y a donc de plus utile pour les hommes dans leur vie, dans leur vie concrète, quotidienne. Et ayant décrit tout ce qu'elle enseigne pour ceux qui aiment la vraie richesse, parce que la sagesse c'est la vraie richesse, il dit au verset 5b, « Quoi de plus riche que la sagesse qui opère tout, la justice, le savoir ?» La sagesse, par son omniscience, est un guide très sûr. Alors c'est pourquoi le roi se justifie en disant que il s'appuie sur elle et que, en fait, elle est normalement indispensable à ceux qui exercent l'autorité. Elle doit être en quelque sorte, l'ami, la compagne, la conseillère du souverain, pour lui donner un bon jugement, pour l'acquisition de l'immortalité aussi, nous dit le texte, entendu ici comme un souvenir éternel à ceux qui viendront après moi. C'est le verset 13b du chapitre 8. Donc bref, aussi est évoqué, pour, selon une expression actuelle que j'aime pas trop, mais que je cite quand même, pour une bonne gouvernance et pour la vaillance à la guerre. Ayant médité cela en moi-même, continue Salomon, et considéré en mon cœur que l'immortalité se trouve dans la parenté avec la sagesse, dans son amitié une noble jouissance, dans les travaux de ses mains une richesse inépuisable. Versets 17 à 18. Donc Salomon nous dit que de tous côtés, avec persévérance et avec constance, il a toujours cherché la sagesse, il a cherché à l'obtenir, et il s'est toujours, pour ce faire, adressé au Seigneur en le priant, parce que la sagesse est un don de Dieu. C'est pourquoi le chapitre 9 contient une très belle prière adressée par Salomon au Dieu des Pères et Seigneur de miséricorde pour obtenir la sagesse. Alors ça mérite d'être lu. C'est pas très long. Donc c'est la prière du roi pour obtenir la sagesse. Dieu des Pères et Seigneur de miséricorde, toi qui par ta parole as fait l'univers, toi qui par ta sagesse as formé l'homme, pour dominer sur les créatures que tu as faites, pour régir le monde en sainteté et justice et exercer le jugement en droiture d'âme, donne-moi, celle qui partage ton trône, la sagesse, et ne me rejette pas du nombre de tes enfants. Car je suis ton serviteur et le fils de ta servante, un homme faible et de vie éphémère, peu apte à comprendre la justice et les lois. Quelqu'un, en effet, serait-il parfait parmi les fils des hommes? S'il lui manque la sagesse qui vient de toi, on le comptera pour rien. C'est toi qui m'as choisi pour roi de ton peuple et pour juge de tes fils et de tes filles. Tu m'as ordonné de bâtir un temple sur ta montagne sainte et un autel dans la ville où tu as fixé ta tente, imitation de la tente sainte que tu as préparée dès l'origine. Avec toi et la sagesse qui connaît tes œuvres et qui était présente quand tu faisais le monde. Là encore, référence au livre des Proverbes. Elle sait ce qui est agréable à tes yeux et ce qui est conforme à tes commandements. Mande-la des cieux saints de ton trône de gloire, envoie-la, pour qu'elle me seconde et peine avec moi, et que je sache ce qui te plaît. Car elle sait et comprend tout, elle me guidera prudemment dans mes actions, et me protégera par sa gloire. Alors mes œuvres seront agréées, je jugerai ton peuple avec justice, et je serai digne du trône de mon Père. Quel homme, en effet, peut connaître le dessein de Dieu? Et qui peut concevoir ce que veut le Seigneur? Car les pensées des mortels sont timides et instables, nos réflexions. Un corps corruptible, en effet, appesantit l'âme, et cette tente d'argile alourdit l'esprit aux multiples soucis. Nous avons peine à conjecturer ce qui est sur la terre, et ce qui est à notre portée, nous le trouvons qu'avec effort. Mais ce qui est dans les cieux, qui l'a découvert? Et ta volonté, qui l'a connue sans que tu aies donné la sagesse, et envoyé d'en haut ton Esprit Saint? Ainsi ont été rendus droits les sentiers de ceux qui sont sur la terre, ainsi les hommes ont été instruits de ce qui te plaît, et par la sagesse ont été sauvés. Voilà cette prière ardente que le roi adresse à Dieu pour obtenir la sagesse, résume bien toutes ces paroles de Salomon dans cette deuxième partie du livre qui commence au chapitre 6 et qui se termine avec ce chapitre 9. Alors après, la troisième section, donc c'est du chapitre 10 au chapitre 15, au chapitre 19, donc c'est la dernière partie de la sagesse de Salomon, et ça illustre tout ce qui précède en prenant des exemples dans l'histoire sainte, dans l'histoire du peuple choisi. Mais c'est fait selon un procédé midrashique, donc interprétatif, et qui prend bon nombre de libertés avec les sources bibliques antérieures. Dans cet ensemble, d'ailleurs, les chapitres 13 à 15 font le procès de l'idolâtrie. Donc là, dans cet ensemble, on oppose régulièrement les Hébreux, qui est le peuple qui vit selon la justice de Dieu, aux Égyptiens, qui sont ici, évidemment, les symboles de l'impiété, les symboles du cœur endurci dont on parle fréquemment dans toute l'Écriture sainte. Donc il y a un procédé d'antithèse qui met en scène plusieurs récits de l'histoire du peuple hébreu. Il y a une série de 7 antithèses, en fait. Le miracle de l'eau au désert, l'histoire des grenouilles, celle des sauterelles et du serpent d'airain, celle de la grêle et de la manne céleste, celle des ténèbres et de la colonne de feu, en référence à Exode 10, celle de la nuit tragique et la nuit de délivrance, et celle de la mer rouge. Donc cette troisième partie, je ne vais pas entrer en détail dans ces 7 antithèses qui opposent les justes aux impies à travers ce récit midrashique des événements bibliques. Cette troisième partie, elle fait suite à ce qui précède, comme je viens de le dire, c'est-à-dire à l'ensemble des versets qui montrent l'excellence de la nature de la sagesse, l'usage qui doit en être fait pour mener une vie agréable à Dieu. Et c'est donc cette partie une illustration de tout ce qui a été dit précédemment. La sagesse, là, dans ces 7 antithèses, est vue comme une puissance qui sauve et qui châtie, à travers l'histoire d'Adam à Moïse, des châtiments sur les Égyptiens et les Cananéens. Il y a entre un ensemble du chapitre 13 au chapitre 15 qui coupe la série des 7 antithèses que j'ai nommées, où on fait le procès de l'idolâtrie qui est pratiquée par les Cananéens et les Égyptiens. Il y a quelque chose d'intéressant d'ailleurs à l'intérieur de cet ensemble de versets, qui est développé au chapitre 14, à partir du verset 12, et qui parle de l'origine de l'idolâtrie. Je cite, « L'idée de faire des idoles a été l'origine de la fornication, leur découverte a corrompu la vie. » Verset 12. Et il est ajouté au verset 13 et 14, « Car elles n'existaient pas à l'origine, et elles n'existeront pas toujours. C'est par la vanité des hommes qu'elles ont fait leur entrée dans le monde. » Alors bien sûr, il faut faire attention à la terminologie. Le terme de fornication, il est à double entente. Il vise d'abord, avant toute chose, l'infidélité à l'alliance. La fornication, la prostitution, c'est toujours une transgression des commandements divins qui sont une infidélité à l'alliance. C'est censé se répéter dans l'Ancien Testament, ça, parce que, évidemment, Israël a été choisi, mais Israël vit dans un environnement de peuple païen, à commencer par les Cananéens. Les Cananéens qui pratiquent le culte de Baal, le culte de Baal lui-même qui pratique des sacrifices humains, je le rappelle. Et cette idolâtrie est vue, cette idolâtrie qui est pratiquée par les Cananéens, par les Égyptiens, est vue en horreur par Dieu, véritablement en horreur par Dieu, et comme une infidélité, un adultère, une prostitution, une fornication. Là, c'est dans cet ordre-là que ça joue, et non pas dans l'ordre du dérèglement moral, d'ailleurs, qui n'est lui-même qu'une conséquence de l'infidélité à l'Alliance. Et cette idolâtrie, d'ailleurs, elle progresse dans la description qui est faite dans cet ensemble 13 à 15. Elle progresse à l'origine, donc, elle a pour origine cette fornication. Et puis, elle progresse parce que on va rendre un culte aux forces de la nature, à des idoles faites de main d'homme, à la pratique de culte à des hommes divinisés, en quelque sorte. Et voilà qui devint un piège pour la vie, que des hommes asservis au malheur ou au pouvoir eussent conféré à des pierres, à des morceaux de bois, le nom incommunicable. Donc c'est verset 21 du chapitre 14. Le nom incommunicable, c'est celui qui est révélé à Moïse sur la montagne, bien sûr. D'où les effets déplorable du polythéisme, qui nous dit le verset 27, « Car le culte des idoles sans nom est le commencement, la cause et le terme de tout mal. » Car le culte des idoles sans nom est le commencement, la cause et le terme de tout mal. Donc, cet ensemble, après le chapitre 15 jusqu'à la fin du chapitre 19, où reviennent les plaies d'Égypte, c'est bien pour faire ressortir l'antithèse entre les adorateurs du vrai Dieu et les païens, les justes et les impies. Voilà, donc en conclusion, pour résumer les points de doctrine que l'on trouve dans ce livre appelé « Sagesse de Salomon », on peut énoncer un certain nombre de points. D'abord, la sagesse vient de Dieu. Elle est un don de Dieu. Donc il faut la chercher. Elle se manifeste dans l'histoire d'Israël. Deuxième point, Dieu donne la sagesse à qui la demande. mais à qui la demande dans la prière. Pourquoi ? Ben, nous l'avons vu, parce qu'il n'est pas donné aux seules forces humaines de la trouver par elle-même. Troisième point, elle est, j'ai cité le verset tout à l'heure, les versets 25-26 du chapitre 7, elle est reflet de la lumière éternelle de Dieu. Donc elle est personnifiée là aussi dans ce texte, hein, sans qu'elle soit une hypostase dans le sein de Dieu, mais on est encore dans un contexte vétérotestamentaire, mais il n'empêche qu'elle est personnifiée, comme elle l'est d'ailleurs dans les autres livres sapientiaux que nous avons étudiés. Cinquième point, sa pratique, sa mise en pratique dans la vie, eh bien, elle donne lieu à une rétribution. Selon que l'on est juste ou selon que l'on est impie, on n'échappe pas à la rétribution. Évidemment, la rétribution n'est pas la même pour le juste que pour l'impie. Pour autant, la question de la résurrection n'est pas évoquée dans ce texte. Parce que la notion de athanasia est plus liée à l'immortalité de l'âme. Mais il est dit au chapitre 2, verset 23, « Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité ». Donc, cette incorruptibilité, elle concerne l'homme tout entier. Ce n'est pas dit comme tel dans le texte, mais c'est déjà suggéré. C'est-à-dire que on s'avance vers la révélation néo-testamentaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la justice de Dieu s'exerce au-delà de la mort. La justice de Dieu s'exerce au-delà de la mort. Et septième point, de ce fait, qui est la conséquence des deux précédents, Dieu n'est pas l'auteur de la mort. Parce que celle-ci, c'est la mort, elle est entrée dans le monde par la jalousie du diable. Voilà sept points qui résument la pensée exprimée dans cette sagesse de Salomon. Merci de votre attention.